c'est pas parce qu'on s'est pas assez fait expliquer pourquoi qu'on est en Afghanistan. C'est, on comprend très bien les enjeux, c'est parce qu'on s'y oppose radicalement.
Et nous sommes présentes malgré ce qui a dit le journal. Nous n'avons pas peur de marcher aux côtés des jeunes punks, anarchistes, rappeurs, graffiteurs, rebelles, étudiants, rêveurs. Parce que vous êtes nos filles et nos fils.
On n'a pas mentionné les massacres et que les soldats onisiens ont commis contre le peuple haïtien, surtout les peuples et des bidonvilles.
Le certificat de sécurité, ce qui arrive, c'est que ça permet au gouvernement canadien de détenir quelqu'un sans charge, sans accès à la preuve.
On oublie souvent les questions de base qui définissent ce conflit. Ce conflit est avant tout un conflit sur la terre.
Queremos mandar un saludo para los radioescuchas de parte de los zapatistas.
Les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, il est 9h du matin et vous écoutez l'émission En bas à gauche, la programmation estivale. Tout l'été, vous pouvez nous retrouver les mardis 9h sur les ondes de Radio Centre-Ville avec une série portant sur la décolonisation en Afrique, une série qui analysera également les moments forts des révoltes dans le monde arabe cette année, des chroniques, encore des apatrides anonymes portant sur l'actualité en immigration, ainsi que plusieurs autres émissions spéciales. On vous invite à visiter notre blog pour en savoir plus à en bas à gauche, wordpress.com.
L'intervention de la Libye et répondre à la question « Pourquoi le Canada intervient en Libye? » Nous avons avec nous Michel Chosolowski, directeur du Centre de recherche sur la mondialisation.
Oui, bonjour.
Bonjour, Michel. Pourquoi le Canada? Pourquoi les forces occidentales interviennent en Libye plutôt qu'ailleurs?
Bon, d'abord, il faut comprendre que ce qui se passe en Libye est totalement différent de ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte. Il ne s'agit pas d'un mouvement populaire, il s'agit d'une insurrection armée localisée initialement à Benghazi, à laquelle il y a différentes factions qui se sont joints et confirmées également. Il y a des factions liées à Al-Qaïda. L'ironie, c'est que Kadhafi avait mentionné le rôle d'Al-Qaïda au début de la crise, mais maintenant c'est CNN qui confirme effectivement qu'il y a des éléments d'Al-Qaïda dans cette insurrection. Et par conséquent, ce n'est pas un mouvement de protestation, c'est plutôt une insurrection armée. La logique de l'insurrection et d'une guerre civile, c'est une question. La question de fond, c'est l'intervention, c'est le pourquoi de cette intervention étrangère. Elle n'a rien à voir avec l'objectif de venir à la rescousse de la population civile. C'est ce qu'on a soutenu au Conseil de sécurité des Nations Unies, le besoin d'intervenir dans une opération humanitaire afin de protéger les civils. C'est les termes de référence des Nations Unies. N'importe qui est familier avec les systèmes d'armement saura que ce sont les bombes et les missiles qui tuent les civils. Et donc, ce prétexte est totalement fabriqué et il répond en réalité à des enjeux plutôt stratégiques et géopolitiques, à savoir que la Libye détient 3,5% des réserves mondiales de pétrole et de gaz, qui est le double de celle des États-Unis. C'est l'économie pétrolière la plus importante en Afrique. Et le but de cette guerre, en fin de compte, n'est pas différent de celle à l'endroit de l'Irak, à savoir prendre possession des réserves de pétrole et de gaz, privatiser et établir une zone d'influence américaine en Afrique du Nord. C'est ça l'enjeu et c'est très grave parce que là nous avons un quatrième théâtre de guerre. Les trois autres sont l'Afghanistan, l'Irak et la Palestine. Et on doit comprendre aussi qu'il s'agit de la même guerre. C'est dans la perspective des Américains, c'est la guerre longue, the long war. Et d'ailleurs, ils le formulent de cette manière-là. C'est une guerre sans frontières. Et elle n'a rien à voir avec le but annoncé au Conseil de sécurité des Nations Unies de venir à la rescousse des civils ou de protéger la population civile.
Oui, en effet, on entend parler d'une guerre juste avec des immenses guillemets, mais dans les articles que vous publiez, entre autres pour le Centre de recherche sur la mondialisation, vous proposez de voir plutôt un processus de division néocoloniale. Donc, quand vous parlez de réaffirmer, de créer une zone d'influence en Afrique de la part des États-Unis, quelles sont les puissances qui étaient déjà là?
Bah, écoutez, d'abord, l'Afrique du Nord, historiquement, a été sous l'influence de la France, de l'Italie en ce qui concerne la Libye, et dans une moindre mesure l'Espagne. Je pense que le but de cette opération, c'est pas tout à fait clair en ce moment, c'est de renforcer l'emprise américaine en Afrique du Nord, ce qui aura pour conséquence également d'affaiblir le rôle de la France et de l'Italie. Mm-hmm. Mais le but aussi, c'est d'exclure des pays comme la Chine, qui ont des intérêts très importants en Libye. La compagnie d'État de pétrole de la Chine est très visible et a des activités en négociation, bien sûr, avec le gouvernement Kadhafi. Il faut faire très attention et comprendre qu'on ne vient pas à la rescousse de civils en bombardant et en envoyant des missiles. Les reportages qu'on reçoit sont très biaisés et on sait à partir de témoignages qu'effectivement beaucoup de ces bombardements sont en train de cibler les civils, notamment des zones résidentielles à Tripoli, des hôpitaux, des aéroports, des centres de communication. Et en réalité, ce qu'on a, c'est une réplique de ce qui s'est passé en Yougoslavie, où effectivement les forces armées ou la force aérienne de l'OTAN avaient un mécanisme de présélection de sites. Et là, ils ont bombardé non seulement des installations gouvernementales et militaires, mais également toute une série d'institutions civiles telles que les hôpitaux. Et je les ai vus. J'ai visité les hôpitaux au lendemain de ces bombardements. Ils ont également ciblé des églises afin d'effacer la mémoire historique. Alors, soyons un petit peu intelligent dans cette question-là. La guerre n'est pas une solution à un mouvement populaire. Ce n'est pas le mouvement populaire qu'on appuie, et il faut se poser la question, qui est cette opposition? Dans la mesure où il y a des éléments d'Al-Qaïda, c'est le groupe, bon, en anglais c'est the Libya Islamist Fighter Group. C'est un groupe lié à Al-Qaïda, formé au Pakistan, en Afghanistan. Et je note également que Al-Qaïda est une création de la CIA. Ça, c'est documenté en long et en large. Et les camps d'entraînement, c'était des camps également financés via le Pakistan et l'Arabie Saoudite par les services de renseignement occidentaux. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de fomenter une insurrection. On est en train de l'appuyer dans le but de renverser le régime dans le but d'établir une zone d'influence en Libye. Et ce n'est pas une question d'être pour ou contre Kadhafi. Kadhafi est un prétexte, on le diabolise, mais en réalité, le but, c'est de recoloniser un pays qui a, dans le contexte actuel, une certaine indépendance. Il contrôle sa société d'État du pétrole. Il recycle également les revenus du pétrole vers la population. Le niveau de vie en Libye est le plus élevé en Afrique. Il n'y a pas de chômage. Il y a zéro chômage. En fait, il y a 300 000 travailleurs étrangers qui vont vers la Libye, notamment à partir de l'Égypte et de la Tunisie. Il y a un service de santé qui est très développé. Et ça, c'est peut-être pas le produit de Kadhafi en soi, parce que Kadhafi, en ce moment, est plutôt impliqué, ou depuis quelques années, s'est plutôt rapproché des puissances occidentales, notamment la Grande-Bretagne et la France, et donc son pouvoir et sa posture est très ambiguë face à son propre pays, et ça, je pense, tout le monde le comprend. C'est un dictateur, c'est un démagogue, sans doute, mais l'enjeu n'est pas celui-là. L'enjeu, c'est la question de la souveraineté de l'État. La souveraineté du pays, et c'est également la question à savoir, est-ce qu'une ingérence étrangère ne constitue pas une violation du droit international? Je dis oui, c'est une violation du droit international d'intervenir dans un pays sous un prétexte de venir à la rescousse d'un mouvement quelconque.
Et puis, Michel, si on retourne faire le lien avec l'intervention dite militaro-humanitaire dans les Balkans dans les années 90, dans ce cas-là, avant d'intervenir et pour justifier l'intervention, il y avait eu une ingérence occidentale avant les bombardements, donc avec financement ou entraînement de forces paramilitaires, que ce soit en Bosnie ou de l'armée de libération au Kosovo. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu la même stratégie dans le cas de la Libye, donc une ingérence pour fomenter l'insurrection armée avant l'intervention officielle?
Je pense que la question vaut d'être posée parce que, d'abord, cette notion de guerre humanitaire, elle est déjà érodée, elle est connue. Alors, les États-Unis, ceux qui sont responsables de la politique étrangère, ont repris les mêmes concepts, mais beaucoup plus que ça, aussi bien en Bosnie, avec l'armée musulmane bosniaque, et au Kosovo, avec l'armée de libération du Kosovo, ces deux organisations étaient appuyées en sous-main par les services de renseignement, mais également ils étaient appuyés par Al-Qaïda. Donc des éléments islamistes ont intégré ces forces paramilitaires afin de déstabiliser le pouvoir du gouvernement. Et quel a été le résultat? La fracture de la Yougoslavie en 6 pays. Okay. Qui maintenant constituent en quelque sorte des territoires facilement manipulables tant par par l'OTAN que par les États-Unis, avec une base militaire à, au Kosovo qui est la, la base américaine Bond Steel. Effectivement, l'UCK, donc le, l'armée de libération du Kosovo, était appuyée par l'OTAN préalable à l'intervention militaire. On a également dit qu'on venait à la rescousse de la population albanaise du Kosovo, donc c'était l'objectif humanitaire, et que les Serbes commettaient des atrocités à l'endroit des civils. On s'est rendu compte, effectivement, mais on le savait même à l'époque, que ces atrocités avaient été commises par le groupe paramilitaire, l'UCK, qui maintenant, on le reconnaît, est lié au crime organisé, au commerce de la drogue, à la prostitution, etc. Mais néanmoins, son chef, Hashim Tashi, était protégé par Madeleine Albright à l'époque et a continué d'être appuyé, non seulement appuyé, mais ensuite on les a installés en tant que gouvernement. Donc l'UCK contrôle le gouvernement du Kosovo qui maintenant devient effectivement un pays indépendant. Alors cette notion d'utiliser les groupes islamistes au sein des mouvements d'opposition et ensuite de créer des divisions afin de fracturer les pays, c'est quelque chose qui est bien rodé dans la formulation de la politique étrangère américaine et dans, le, dans l'action militaire.
Et dans le cas de la Libye, peut-on penser que le conflit actuel pourrait amener à une scission de l'est du pays? Et est-ce que ça répondrait à des intérêts impérialistes, disons-là, à des intérêts occidentaux?
Absolument. La question a déjà été soulevée aux États-Unis, à savoir effectivement, peut-être ça serait mieux de couper le pays en deux ou en trois ou en quatre. Il y a dans le mouvement qui a commencé à Benghazi, il y a des mouvements sécessionnistes, il y a des mouvements séparatistes. Et c'est certain que ceci serait à l'avantage du pouvoir occidental parce que le pétrole est en bonne partie localisé à 75% c'est localisé dans l'est de la Libye. Maintenant, j'aimerais revenir à la question de, du Canada et du général, lieutenant-général Bouchard. La participation du Canada, elle est basée sur le fait que nous sommes très imbriqués aux États-Unis sur le commandement. Et au niveau des implications maintenant militaires, etc. Le général Bouchard était commandant de la NORAD, donc d'une alliance bilatérale entre le Canada et les États-Unis, est très imbriqué aux structures de commandement des États-Unis. Alors, de facto, cette nomination permet aux États-Unis, finalement, de gérer l'action de l'OTAN, parce qu'ils ont un général canadien, mais un général canadien qui, en réalité, fait partie des structures de commandement entre les deux pays. Et d'ailleurs, la base militaire de NORAD est au Colorado, c'est pas au Canada. Alors, c'est très important de comprendre, en fin de compte, que notre participation, elle reflète aussi, non pas une décision gouvernementale de Stephen Harper, mais plutôt le fait que nous sommes au niveau des structures de commandement militaire de plus en plus imbriquées aux États-Unis et par conséquent, il y a une question aussi de souveraineté en ce qui concerne le Canada, à savoir est-ce que chaque fois qu'il y a une guerre, le Canada va participer de facto parce que ses forces armées sont maintenant imbriquées à celles des États-Unis?
Et la participation du Canada, on pourrait penser qu'elle participe à légitimer une intervention en lui donnant un saut, justement en reprenant le discours de défense de droits humains, de mandat humanitaire, etc.
Absolument, absolument. Je crois que l'opinion publique est très a été un peu L'opinion publique a une posture assez confuse en ce moment, et c'est compréhensible parce que les médias nous ont mal informés sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Il y a eu des mouvements de protestation en Égypte, en Tunisie, mais ce qui se passe en Libye est totalement différent, et on nous fait croire, ce qui est absolument faux, que le mouvement de protestation en Égypte s'est répandu en Libye de manière spontanée, un peu comme comme si c'était quelque chose qui était au niveau d'une prise de conscience et automatiquement ça se répand. C'est pas ça qui est arrivé. Tous ces événements ont été planifiés longtemps à l'avance. Et je devrais dire aussi, en ce qui concerne l'Égypte, il y a eu une manipulation de la part de fondations américaines liées aux services de renseignement, dont la National Endowment for Democracy, Freedom House et d'autres, qui ont des liens avec le mouvement du 6 avril, qui est le mouvement jeunesse, avec Kifaya, qui est un autre mouvement politique. Tous les mouvements, tous les leaders de ces mouvements en Égypte ont des liens à très haut niveau avec le département d'État, incluant Hillary Clinton, le conseiller à la sécurité nationale, la Maison Blanche, le Sénat, le Congrès, etc. Et ça ne veut pas dire que ce mouvement n'est pas significatif. Il l'est, le mouvement de base. Mais il y a eu un processus de cooptation des leaders qui ont trahi le mouvement populaire. Et c'est pour cette raison-là que le mouvement populaire ne s'en est pas pris aux États-Unis et au rôle que les États-Unis jouent à installer des gouvernements. Donc Moubarak s'en va, mais le régime pro-américain lié aux forces armées demeure intact. Et c'est ça qui est l'enjeu en Égypte en ce moment.
Monsieur Chouchevski, malheureusement, je dois vous arrêter. C'est tout le temps qu'on a, mais je pense c'est un appel clair.
Alors, ça fait plaisir d'être à l'émission.
Oui, et je pense que vous avez invité les gens à chercher d'autres sources d'informations que celles qu'on nous donne en ce moment dans les médias dominants. Et entre autres, j'inviterais l'auditoire à consulter vos articles sur l'insurrection et intervention militaire en Libye. Alors, pouvez-vous nous donner le lien?
Il y a deux sites. C'est le site mondialisation.ca, qui est en français. Et l'autre, c'est globalresearch.ca, où nous publions sur une base quotidienne et on a une couverture très étendue sur la situation en Libye en ce moment.
Alors, Michel Chouchevski, je vous remercie beaucoup de votre participation.
Merci, au revoir.
Sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, vous écoutez la programmation spéciale estivale de En bas à gauche.
Inscrit, je suis arabe. Le numéro de ma carte, 50 000. Nombre d'enfants, 8. Et le 9e arrivera après l'été. Et te voilà furieux. Inscrit, je suis arabe. Je travaille à la carrière avec mes compagnons de peine. Et j'ai 8 bambins. Leurs galettes de pain, les vêtements, leurs cahiers de collier, je les tire des rochers. Oh, je n'irai pas quémander le mon à ta porte. Je ne me fais pas du petit au porche de ton palais. Et te voilà furieux.
Inscrit, je suis arabe. Mes cheveux, couleur du charbon. Mes yeux, couleur du café. Signe particulier sur la tête, un keffiyeh avec son cordon bien serré. Et ma pomme est dure comme une pierre. Elle écorche celui qui la serre. La nourriture que je préfère, c'est l'huile d'olive. Et le thym, mon adresse. Je suis dans un village isolé où les rues n'ont plus de nom. Et tous les hommes à la carrière comme au champ aiment bien le communisme. Inscrit, je suis arabe et te voilà furieux. Inscrit que je suis arabe, que tu as raflé les vignes de mon père et la terre que je cultivais, moi et mes enfants ensemble. Tu nous as tout pris, hormis pour la survie de mes petits-fils, les rochers que voici. Mais votre gouvernement va les saisir aussi.
Donc, inscrit en tête du premier feuillet que je n'ai pas de haine pour les hommes, que je n'assaille personne, mais que si j'ai faim, je mange la chair de mon usurpateur. Gare à ma fureur.
Au 21e siècle, l'homme invisible dès les sons existe. Le préjudice demeure, persiste et puis signe. La résistance n'est plus dès qu'on s'y résigne. Et l'amnésie collective s'installe tranquille. La haine dans ce monde est basée sur des faits vécus. L'histoire se répète chaque fois qu'on dit jamais plus. Les cœurs s'assèchent comme un désert où il n'a jamais plu. Où les vautours rapaces guettent et restent à l'affût. Il y a de ceux qui ne connaîtront jamais l'aube de la fin. Pour d'autres, la fin du monde arrive chaque matin. Leur quotidien est aigre, doux comme le sucre de la canne. Et la misère dans la main maigre que la coupe d'une hache. Ainsi va la vie qui va, ce n'est pas d'elle qu'on se cache. On prend notre place sur la scène et pas dans les coulisses. Même si on se dirige tout droit vers le précipice. À chaque jour on le lit sur la page frontispice.
De Radio Centre-Ville 102.3 FM. Vous écoutiez Nomadic Massive au 21e siècle. On se retrouve après la pause publicitaire avec Alain Denon.